Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Dans cette communication, je parlerai des défis du droit de la responsabilité quand il s'agit des jugements par les instances internationales. Du point de vue de la justice internationale, celui qui comparaît devant l'instance chargée de statuer a violé une norme de droit international et doit répondre pour son acte. La responsabilité dont nous parlerons, c'est la responsabilité au sens de l'obligation de répondre pour des actes passés. C'est donc un jugement orienté vers le passé. Il faut essayer, une fois le jugement rendu, de rétablir, dans la mesure du possible, le status quo ante ou la situation antérieure. Cette responsabilité au sens classique semble néanmoins inadaptée pour faire face aux grands défis du XXIe siècle, comme le changement climatique qui affecte toute l'humanité. En même temps, les instances internationales chargées de juger de la responsabilité doivent faire face à deux obstacles majeurs, la souveraineté des États d'un côté et les pouvoirs économiques privés de l'autre, qui infléchissent de plus en plus les modes de solution de litiges. La responsabilité du point de vue du droit international est un des sujets les plus sensibles. La première et principale raison est évidente. La responsabilité ne s'accorde pas volontiers avec la souveraineté, celle-ci comprise comme le caractère d'un organe qui n'est soumis au contrôle d'aucun autre. C'est en affirmant sa souveraineté que les États refusent d'être jugés par d'autres États ou par des instances internationales. Il faut rappeler que même les règles qui portent sur la possibilité de saisine par les cours internationales sont basées sur la liberté laissée aux États de choisir de se soumettre ou non à leur juridiction. Il est de principe que les États ne peuvent se voir imposer aucune règle à laquelle ils n'auraient donné leur assentiment. Dans l'ordre international, le recours à une procédure juridictionnelle est subordonné au consentement de toutes les parties. Dans le domaine de la Cour internationale de justice, le mécanisme utilisé est la clause facultative de juridiction obligatoire. Mais il faut rappeler encore que même une fois acceptée cette juridiction, elle peut être dénoncée. Deux exemples importants le démontrent. D'un côté, la France, dans l'affaire des essais nucléaires en 1974, et de l'autre, les États-Unis, dans l'affaire des activités militaires au Nicaragua en 1995. Regardons alors du côté de la responsabilité des États et la protection de l'environnement. Dans le domaine de l'environnement, la responsabilité n'est pas prise au sérieux par les États. Ceux-ci ne veulent pas s'engager dans une définition des conditions de la responsabilité internationale pour des dommages causés par leurs actions. La preuve concrète, c'est le fait que le programme des Nations Unies pour l'environnement a commencé des travaux pour mettre en œuvre le principe 22 de la déclaration de Stockholm, mais le projet a échoué par manque de volonté politique des États. Selon ce principe, les États devraient coopérer pour développer les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité et de l'indemnisation des victimes des dommages écologiques. Rappelons encore que rares sont les textes qui donnent des précisions sur la portée de la responsabilité pour ces dommages. La plupart se limitent à reconnaître la responsabilité comme principe inséré dans les préambules des conventions internationales. Il est intéressant de noter que dans le projet d'article sur la responsabilité des États élaboré par la Commission du droit international de l'ONU dans sa version de 1996, qui malheureusement a été abandonnée, dans cette version, l'article 19 prévoyait comme un des crimes internationaux la violation grave d'une obligation internationale essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement, comme celle interdisant la pollution massive de l'atmosphère ou des mers. La pratique internationale démontre que, bien que le principe de la responsabilité soit généralement proclamé, les États se gardent de le préciser et de le mettre en œuvre. Même dans les cas où ils acceptent de payer des indemnisations, ils n'assument pas leurs responsabilités, comme ce fut le cas des expériences nucléaires des États-Unis dans les îles Marshall en 1954. Mais, à la façon de Delmas Marty, il y a toujours des issues porteuses d'espoir. Dans une décision de la Cour internationale de justice de 1997, dans l'affaire Gabsikovo-Najimoros, qui portait sur la décision de l'Hongrie de suspendre sa part des travaux dans la construction d'écluses dans le Danube, se basant sur le principe de précaution, la Cour a accepté la thèse hongroise et a affirmé que, je cite, « dans le domaine de la protection de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages causés à l'environnement et des limites inhérents au mécanisme même de réparation de ce type de dommages. » Parlons alors des intérêts privés qui influencent les instances internationales. La question de la responsabilité devient encore plus complexe si nous considérons son jugement, le jugement quand il s'agit d'autres acteurs de la scène internationale, comme les entreprises transnationales, qui, ayant un pouvoir aujourd'hui estimé plus grand que celui de beaucoup d'États, n'ont aucune responsabilité au plan international qui soit compatible avec le pouvoir qu'elles exercent. Dans ce qui se réfère aux solutions des litiges, les formes non judiciaires, en spécial l'arbitrage, substituent les décisions judiciaires internes et internationales. Les accords de libre-échange, comme celui qui est en discussion sur le partenariat transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, proposent des mécanismes de règlement de différends basés sur l'arbitrage international, qui dans la pratique sont des tribunaux privés et qui pourront même apprécier si le comportement des États dans les domaines social et environnemental peuvent causer des préjudices, non aux citoyens ou à l'environnement, comme il serait raisonnable de penser, mais aux activités des entreprises. Dans ces accords, les clauses sociétales et environnementales sont en général des catalogues de bonnes intentions sans aucun effet concret. Il existe déjà des contentieux basés sur les traités bilatéraux d'investissement qui ont proliféré depuis les années 90, où les politiques publiques des États sont mises en cause par les entreprises privées. Deux affaires démontrent cette affirmation. L'affaire Philip Morris mettant en cause la politique de santé publique de l'Australie et l'affaire Vattenfall liée à la décision du gouvernement allemand de sortir de l'énergie nucléaire. Dans ces traités d'investissement, il n'existe pas de prévision d'obligation à l'encontre des entreprises transnationales. Les investisseurs ont la possibilité de débuter une procédure devant l'instance internationale de la Banque mondiale chargée des règlements de conflits d'investissement pour demander des indemnisations. Ce qui est en cause, selon le langage des accords, c'est la protection juridique et la facilitation des investissements et non l'intérêt public. Il existe une tension presque insoluble entre le droit des investisseurs et le bien commun. Les institutions chargées des arbitrages entre investisseurs et États servent surtout à assurer les intérêts des entreprises contre les politiques publiques des États. En réalité, dans ce domaine, nous sommes en présence d'un traitement privilégié pour les investisseurs et d'un vrai déclin de la souveraineté en faveur des pouvoirs privés, comme dirait Alain Soupiot. Un autre domaine où la situation est similaire est celui des litiges traités par l'organe des règlements de différends de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Bien que réputés intérêts étatiques, ces règlements confondent souvent les intérêts des États avec ceux des acteurs économiques privés. L'instance chargée de trancher dans le domaine du commerce est aussi un tribunal arbitral où chaque panel est constitué pour analyser les différents cas. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les décisions de l'OMC sont en général en désaccord avec les règles issues d'autres organisations internationales, considérant que le libre commerce doit avoir la préférence, même en détriment de la santé humaine ou la protection de l'environnement. Il suffit de vérifier que les textes et les décisions de cette organisation ne prennent pas en compte les règles établies dans un domaine sensible comme celui qui est couvert par la Convention de la protection de la biodiversité. Regardons alors du côté des droits de l'homme. Dans le contexte européen de protection des droits de l'homme, c'est grâce à l'article 8 de la Convention qui protège le droit au respect à la vie privée qu'un droit à l'environnement a été reconnu par la Cour de Strasbourg. C'est dans l'arrêt Lopez-Ostre, de 1994, que le juge européen fait entrer le droit à un environnement sain dans le champ de la Convention. En 2002, dans l'arrêt Oneril 10 contre la Turquie, la Cour, en développant cette reconnaissance, a jugé que les États ont l'obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie, des personnes en ce qui concerne les questions environnementales. Dans le système interaméricain, les affaires qui ont trait à la protection de l'environnement portent en général sur la violation des droits des populations vulnérables comme les indigènes et les populations traditionnelles. C'est dans le contexte des activités économiques, des projets de développement menés par les États ou l'exploration sans contrôle par des entités privées et qui sont en tension avec la protection des ressources naturelles et les populations autochtones que des violations graves de droits de l'homme se produisent. Dans le contexte brésilien, les exemples les plus connus sont ceux des barrages, comme celui de Belo Monte au Jirau, construits dans des projets de croissance accélérée menés par le gouvernement actuel et qui est en analyse dans un cas porté devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La question qui se pose est celle de savoir comment procéder quand les atteintes à l'environnement proviennent d'une conception erronée de développement et font partie des politiques publiques choisies par un gouvernement. Dans les cas qui portent sur le droit des peuples autochtones à vivre dans un environnement salubre et de l'utilisation des ressources naturelles, la Cour interaméricaine a innové en acceptant des notions comme la propriété collective et les droits collectifs qui sont plus appropriés pour protéger les intérêts des communautés indigènes dans la mesure où leur connaissance de la nature leur permet d'utiliser les ressources naturelles de façon durable. Ces communautés sont ainsi des agents indirects de la protection de l'environnement, mais la question qui se pose est celle de savoir si cette protection par le biais des droits de l'homme, peut devenir un agent effectif pour la protection de l'environnement ou si elle sera toujours trop ponctuelle et donc trop timide pour résoudre les questions globales. Quelques conclusions et finalement quelques propositions. La responsabilité jugée dans les instances internationales est une responsabilité orientée vers le passé, inadaptée aux défis qui s'imposent au XXIe siècle. La souveraineté est souvent utilisée par les États pour se protéger des décisions qui peuvent engendrer leurs responsabilités au niveau global. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les jugements des instances internationales comme la Cour internationale de justice peuvent aider à développer des principes, mais sont insuffisants pour régler les problèmes liés à des dégâts environnementaux qui sont, dans la plupart des cas, définitifs et irréversibles. Dans le domaine des investissements et du commerce, la souveraineté est en déclin. Les intérêts privés prennent le devant et les formes de solutions de litige et d'attribution de responsabilités se privatisent. Le droit devient alors un instrument au service du marché. Dans le domaine des droits de l'homme, la protection des droits individuels qui concernent la collectivité, comme le droit à un environnement sain, s'est développée, mais là encore un long chemin à faire pour devenir apte à protéger l'environnement à un niveau global. Mes propositions. En ce qui concerne la responsabilité dans le domaine du droit, il faudrait la réorienter d'une acception répressive et tournée vers le passé, vers une acception positive tournée vers le futur. Il faudrait établir un cadre juridique envisageant une responsabilité préventive ou par anticipation pour État et acteurs privés. Il faut renforcer l'idée de la responsabilité comme une charge ou mission, au sens que le titulaire a la responsabilité de donner une réponse en relation aux situations données, indépendamment de l'existence de fautes. Il faut intégrer les principes de prévention, précaution et de protection des générations futures dans la définition juridique de responsabilité dans le domaine de l'environnement. Il faut renforcer la protection de l'environnement dans le domaine des droits de l'homme. Il faut renforcer l'idée de la responsabilité partagée entre les divers acteurs, États, entreprises privées et la société civile. Il faut finalement rétablir l'importance de la promesse dans les affaires humaines en insistant sur le principe du pacta sunt servanda ou l'inviolabilité des accords et traités. Comme nous rappelle Hannah Arendt, il existe une puissance qui est engendrée lorsque les hommes se rassemblent et agissent de concert. Cette puissance qui assure la cohésion, c'est la force de la promesse mutuelle du contrat. La promesse crée, selon Arendt, des îlots de prévisibilité dans un monde marqué par des incertitudes quant à son futur. Espérons alors que dans la prochaine réunion du climat, la promesse sorte victorieuse. Merci beaucoup.